Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir sur la fréquence 94.9 de la radio Graphite. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode des Échos de l'innovation. On fait tous partie de la même école, l'Université Technologique de Compiègne. Effectivement, j'ai avec moi Mehdi.
Bonjour à tous.
J'ai avec moi aussi Oscar.
Salut.
Louis.
Hello.
Margot.
Salut tout le monde.
Anna.
Bonjour à tous.
Et Souleymane.
Salut.
Dans ces émissions, on s'empare des thèmes sociétaux, économiques, écologiques et bien d'autres. Et on vous les présente sous un nouvel angle, d'une part en les confrontant à la science et aussi par le biais de chroniques, de jeux et de débats. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous concerne tous. Pour beaucoup d'entre nous, le temps d'écran quotidien, que ce soit téléphone, ordinateur ou autre, dépasse largement les 4 heures. À tel point que nous pouvons nous demander si nous louons pas une dépendance à ces objets. Durant cette émission, nous discuterons de l'avancée des technologies, de notre futur commun avec ces dernières, de ces dérives ou de ces possibles dérives. Au terme, chers auditeurs, vous saurez enfin si nous sommes ou nous serons esclaves des technologies. Assez parlé, passons au cœur de notre mission. Je vais laisser la parole à Louis pour défaire certaines idées reçues que nous pouvons avoir en appréhendant ce thème.
Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Aujourd'hui, je vais essayer de déconstruire 3 grosses idées reçues, souvent associées au thème des nouvelles technologies. Elles seront plutôt orientées vers notre dépendance, je dirais, cognitive aux technologies telles que les smartphones, ordinateurs, télé, etc. Alors, premièrement, on a tous tendance à penser que ce type d'appareils électroniques sont neutres et donc inoffensifs et que l'on peut s'en passer quand on veut. Cependant, il faut savoir que ces dispositifs sont conçus pour capter notre attention. Les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les applications nous incitent à les utiliser de manière répétée. Rien qu'un exemple, les couleurs sur nos smartphones, sont en partie responsables de cette dépendance. On associe en effet toujours une couleur à une application ou à un concept, ce qui nous pousse à interagir. Plusieurs études vont dans le même sens en montrant que l'usage excessif d'écran peut conduire à de l'anxiété, de l'isolement ou même des problèmes de santé mentale. Deuxièmement, il est courant de penser que la dépendance à ces technologies est principalement un problème de jeunes. Malheureusement, le fléau touche toutes les tranches d'âge. Les adultes sont également vulnérables, que ce soit en passant des heures à consulter leur mail ou en jouant à des jeux en ligne. De plus, ces adultes ne sont pas épargnés par l'attraction que constituent les réseaux sociaux. Par l'analyse du profil utilisateur, ces réseaux sociaux mettent en avant du contenu, parfaitement adapté à nos goûts et centres d'intérêt. Un profil donc adapté à tout type de personnes et de tout âge. Cette dépendance peut avoir donc un impact négatif sur les relations familiales, le travail et même la sécurité routière. Il est aussi courant de supposer que les technologies modernes sont infaillibles, notamment pour les systèmes gouvernementaux, économiques et les technologies d'infrastructure. Cependant, cette idée reçue ignore la vulnérabilité potentielle des systèmes technologiques. Les cyberattaques, les pannes de réseau et les défaillances matérielles peuvent entraîner des dysfonctionnements graves dans les secteurs clés tels que la santé, les transports et l'énergie. Il est donc essentiel de reconnaître que la dépendance excessive aux technologies expose nos sociétés à des risques importants, nécessitant des mesures de sécurité et de résilience adéquates. Pour conclure, il est important de retenir que la dépendance aux technologies et ses potentielles dérives sont des problèmes bien réels. Il est crucial de reconnaître que les technologies ne sont pas nécessairement inoffensives, qu'elles affectent les gens de tout âge et qu'il existe des moyens de lutter contre cette dépendance. En prenant des mesures pour mieux gérer notre utilisation des technologies, nous pouvons retrouver un équilibre sain entre notre vie en ligne et notre vie réelle, en changeant donc notre mode d'utilisation de ces dernières.
Merci à toi Louis, il était je pense important de rappeler tout cela. Et comme c'était la première chronique de l'émission, on peut tous l'applaudir. Nous allons maintenant avec Souleymane voir à quel point la technologie est omniprésente dans notre monde actuel, étant donné qu'il va nous parler de la dépendance des technologies dans différents domaines.
«
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la dépendance aux technologies dans plusieurs domaines. L'avancée rapide des technologies a transformé notre façon de vivre, de travailler et d'interagir. Cependant, avec ces progrès, émerge une question cruciale. Jusqu'à quel point sommes-nous devenus dépendants de ces technologies ? Aujourd'hui, nous explorons la dépendance aux technologies dans divers domaines, allant de la communication à l'éducation, du travail à la santé mentale. Alors, pour le premier point dont j'ai envie de parler aujourd'hui, est sur la dépendance dans le domaine de la communication. Dans le monde de la communication, les smartphones, les réseaux sociaux ont transmis nos interactions. Cependant, la dépendance à ces dispositifs soulève des interrogations sur la qualité de nos relations. Sommes-nous authentiquement connectés ou simplement captifs de nos écrans ? Explorons cette dichotomie entre la promesse de la connectivité et le risque d'isolement. La révolution numérique a métamorphosé notre façon de communiquer avec les smartphones et les médias sociaux au cœur de cette transformation. Ces outils ont créé une connectivité instantanée, mais la question persiste. La dépendance émergente se manifeste à travers l'impulsion constante de vérifier les notifications, de répondre instantanément aux messages et de partager chaque aspect de notre vie en ligne. Les likes et les commentaires deviennent des indicateurs de notre valeur sociale, créant ainsi une relation complexe entre la technologie et notre bien-être émotionnel. En examinant ces dynamiques, nous devons nous demander si nous avons sacrifié la qualité des relations réelles au profit de la quantité de connexions virtuelles. Le deuxième point que je veux souligner, c'est la technologie au travail. Le monde professionnel a été profondément transformé par les avancées technologiques, apportant des gains significatifs en efficacité, mais également des défis en termes de bien-être. L'intégration de technologies de communication instantanée et d'outils de collaboration virtuelle a amélioré la productivité, mais cela a également créé une attente de disponibilité permanente. La ligne entre vie professionnelle et personnelle devient floue, avec la tentation constante de répondre aux mails après les heures de travail. Cette pression constante peut entraîner l'épuisement professionnel et des implications sur la santé mentale. Ainsi alors, que les technologies facilitent le travail, elles soulèvent également des questions cruciales sur l'équilibre entre productivité et bien-être. Troisième point, l'éducation à l'ère numérique. L'éducation a été transformée par la technologie, offrant des opportunités sans précédent. Cependant, la dépendance aux appareils électroniques peut altérer la concentration des étudiants. Comment persévérer l'essence de l'apprentissage face à cette dépendance croissante? Examinons comment l'équilibre entre la tradition éducative et les outils numériques peut être atteint. L'éducation a subi une transformation majeure avec l'introduction des technologies en classe, offrant des opportunités d'apprentissage novatrices, mais également présentant des risques de dépendance. L'utilisation intensive de dispositifs numériques en classe peut améliorer l'engagement des étudiants, mais elle peut aussi devenir une source de distraction. Les étudiants peuvent développer une dépendance aux dispositifs pour étudier et interagir, ce qui soulève des préoccupations sur la qualité de l'apprentissage. La question de trouver un équilibre entre l'utilisation constructive des technologies et la prévention de la dépendance devient essentielle pour garantir une expérience éducative enrichissante. Dans le plan de la santé mentale, les impacts des technologies sur la santé mentale sont de plus en plus évidents, avec des études suggérant des liens entre une utilisation excessive et des problèmes tels que l'anxiété et la dépression. L'exposition constante aux écrans, en particulier via les médias sociaux, peut contribuer à des normes irréalistes et à la comparaison sociale. La quête incessante de validation en ligne peut également entraîner des sentiments d'insécurité et de basse estime de soi. En abordant ces problèmes, il est crucial de sensibiliser à une utilisation consciente des technologies, encourageant des pratiques saines pour préserver la santé mentale tout en profitant des avantages que ces outils offrent. Alors que nous célébrons les avancées technologiques, il est essentiel de questionner notre dépendance croissante. Sommes-nous véritablement maîtres de nos technologies ou sommes-nous devenus leurs esclaves ? Cette réflexion est cruciale pour façonner un avenir où la technologie reste un outil au service de l'humanité plutôt qu'une force aliénante. Merci de m'avoir écouté et je laisse la suite à présentateur.
Je te remercie pour nous avoir éclairé sur le sujet. Alors que nous sommes entourés de technologies, savoir le nombre d'activités qui sont transformées par cette dernière est assez choquant. Je vais maintenant laisser Mehdi nous informer sur la justice du futur.
En effet, malgré l'avancement des technologies épaulant enquêteurs et autres médecins légistes, de nombreuses erreurs judiciaires subsistent. En effet, près de 500 Français sont indemnisés chaque année pour avoir fait de la détention provisoire avant finalement d'être innocentés lors d'un procès. Jean-Michel Lambert, un célèbre magistrat décédé en 2017, nous proposait dans son ouvrage « De combien d'injustices suis-je coupable ?» d'aligner le montant de la réparation sur celui du salaire du premier président de la Cour de cassation, soit environ 10 000 euros par mois de détention. Or, ce préjudice moral n'est pas toujours réparable financièrement. En effet, en épargnant l'analogie de la ligne verte, Une étude de l'Académie des sciences américaines de 2014 estime qu'au moins 4,1% des 7482 condamnés à mort entre 1974 et 2004 sont probablement innocents. Parmi eux, seuls 1,6% ont été innocentés et libérés. Vient alors le quid du rôle de l'intelligence artificielle dans la justice du futur, un sujet très ancré dans la pop culture. L'un des exemples les plus évocateurs reste l'adaptation de la nouvelle Minority Report, parue en 1956 de Philip K. Dick par Steven Spielberg dans un film éponyme dystopique qui est sorti un demi-siècle après. D'autres exemples, tels que l'animé Psychopath ou encore certains épisodes de Black Mirror, évoquent également la résolution d'enquêtes par des androïdes dotés d'intelligence artificielle. Et je vais donc vous parler de l'excellent jeu franco-américain Detroit Become Human. Il se situe dans la ville de Détroit, dans le Michigan, en 2038. Des androïdes partagent alors le quotidien des êtres humains en étant à leur service. Nous incarnons alors différents androïdes à la première personne et le jeu nous amène à faire des choix qui auront des répercussions sur le déroulement de l'histoire. Par exemple, Kara, un androïde d'intérieur, est amenée à prendre une décision cornélienne. Lorsqu'elle est confiée à un homme détruit, drogué et alcoolique qui bat sa fille, doit-on le laisser faire ou bien s'en prendre à lui et enfreindre l'éthique robotique afin de protéger l'enfant ? Dès la première scène, nous incarnons le personnage principal androïde Connor, un négociateur et enquêteur de police. L'un de ses congénères, un androïde déviant, prend en otage un humain. Nous sommes alors amenés à intervenir pour sauver l'otage. Chacune des décisions que nous prenons a des conséquences sur le scénario que David Cage, le scénariste et réalisateur, a mis 2 ans à élaborer. Alerte spoiler, les androïdes développent de plus en plus de sentiments et désirent obtenir les mêmes droits que les humains. Certaines fins amènent à une révolution pacifique accordant aux androïdes les droits qu'ils demandaient, tandis que d'autres entraînent une guerre civile. Au total, ce jeu au scénario tentaculaire admet 99 fins différentes pour ces personnages robotiques étoffés au parcours touchant. Je vais désormais vous parler d'une série d'animation Netflix qui connaît un franc succès en cette fin d'année 2023. Plutôt. Une série de 8 épisodes d'environ 1 heure chacun, fascinante, tant par l'image que par le scénario. Le divulgachage ne sera pas de mise cette fois, puisque j'écris cette chronique juste après avoir fini le premier épisode, tellement il m'a fasciné. En effet, ces quelques minutes m'ont suffi à supprimer les notes que j'avais mises pour ma chronique sur la futurologie, tant l'animé était prenant. Il est l'adaptation d'un manga de Naoki Urasawa, publié entre 2003 et 2009 dans la revue Big Comic Original. Il a par la suite été compilé en 8 tomes et traduit en français aux éditions Kana. Dans le monde futuriste de Tezuka, la société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots humanoïdes. Ces robots vivent, pensent, étudient et travaillent aux côtés des humains. Un code de loi régit la vie des robots. Il est par exemple interdit de tuer un humain, bien évidemment. L'un d'entre eux, l'inspecteur Gesicht d'Europol, est l'un des 7 robots les plus puissants de la planète. Alors qu'il est fatigué et déprimé, Gesicht se voit confier une nouvelle enquête. Trouver qui se cache derrière la mort de Mont-Blanc, un des 7 piliers qui est adulé par le peuple et qui a été reconverti en garde forestier en Suisse. Alors que Gesicht commence son enquête, l'histoire admet une parenthèse des plus poétiques. Paul Duncan, un célèbre pianiste non-voyant à la retraite, vit seul dans un gros château écossais. Originaire de Bohême, une région romantique aux idylles pleines verdoyantes, Paul Duncan souffre de son passé et chaque nuit, il cauchemarde. Il cauchemarde de l'abandon de sa mère lorsqu'il était enfant, alors qu'il était sévèrement malade. En effet, sa mère le laisse dépourvu d'amour en faveur d'un homme riche. Il est alors envoyé dans une prestigieuse école anglaise et, alors que son état empire, il se fait soigner lors d'une opération qui lui retira l'usage de ses yeux. Paul ne reverra plus jamais sa mère. Et cette souffrance se torture dans sa musique. Il n'arrive pas à finir son œuvre. apparaît alors son nouveau domestique, Norstu, l'un des 7 robots les plus puissants. Il est lui aussi névrosé par la guerre, le 39e conflit d'Asie centrale, où il a tué des dizaines de milliers de robots. Il va alors chercher à aider Paul Duncan à finir son œuvre musicale. En effet, il entend son maître murmurer une mélodie pendant qu'il cauchemarde et Norstu cherche alors à l'aider. Mais ce dernier, aigri et médisant des robots, refuse son aide. Norstu part alors en Bohême et parvient à retrouver les traces du vieux pianiste. Il revient alors en Écosse pour aider Paul et lui raconte la vérité. La mère de Paul s'est liée de son riche partenaire dans l'unique but de sauver son fils d'une mort certaine. Et alors qu'il sortait de son opération en ayant perdu la vue, elle a préféré rester silencieuse dans un coin, par crainte que Paul ne la rejette. Le pianiste accepte alors l'aide du robot et Paul Duncan termine son œuvre. Ils passèrent de jours heureux et les deux amis reprirent peu à peu goût à la vie quand soudain, le tueur de robots apparaît et Norstu perd la vie en essayant de protéger son maître. Je vous laisse désormais avec la bande originale de cet épisode de Pluto, signée Yugo Kanno.
Piano no renshi wo shiyou.
Hai.
Ainsi, Yugo Kanno reprend le schéma du baroque Antonio Vivaldi pour délivrer ce thème fait de 4 parties, reprenant les 4 saisons qu'auront passé Norstu et Paul Duncan.
Eh bien, merci beaucoup Mehdi de nous avoir fait partager ta culture. Je connais bien l'auteur de l'anime que tu as voulu nous faire découvrir. J'ai lu plusieurs de ses œuvres et c'est vrai qu'à chaque fois c'est génial. Donc là, ça m'a donné envie aussi de lire celui-là parce que je ne le connaissais pas du tout. Vous êtes toujours en train d'écouter la radio Graphite sur la fréquence 94.9. Chers auditeurs, après ce flux d'informations, vous avez sûrement envie de vous détendre et de vous reposer. Et nous aussi d'ailleurs. Donc nous avons prévu un petit jeu. Startup ou Oscar, vous allez vite comprendre. N'hésitez surtout pas à jouer de votre côté. Jingle.
Allez, le jeu.
Merci Jason. Du coup, en effet, j'ai préparé un petit jeu pour tout le monde ici. Je vais vous citer plusieurs idées de start-up et vous allez devoir trouver si c'est des vraies start-up qui existent ou qui ont existé, parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas fonctionné malheureusement, ou si c'est des choses que j'ai totalement inventées. La première start-up dont j'aimerais vous parler, c'est plus une idée de design que de start-up parce que ce n'est pas une technologie particulièrement innovante en soi. Mais c'est un designer qui a créé une lampe qui permet de détecter le CO2 dans l'air et d'informer l'utilisateur s'il y a des problèmes au niveau du CO2 dans l'air de sa pièce.
Je pense que ça devrait exister parce que ce serait en tout cas hyper pratique d'avoir ça pour éviter toutes les intoxications.
Ouais, je pense que ça devrait exister. Les capteurs de CO2, franchement, on commence à en voir de plus en plus.
Ouais, en effet. Alors, pour le coup, le CO2, c'est pas dangereux à faible dose. C'est pas pareil que le monoxyde de carbone, je pense que vous savez déjà. Mais pour expliquer aux auditeurs, c'était surtout dans le contexte du Covid pour détecter quand la pièce est trop renfermée et s'il faut aérer sa pièce, sa maison. Et du coup, oui, en effet, ça existe vraiment. C'est Pierre Charrier, un Français, qui a eu cette idée. Et en fait, c'est une lampe c'est assez difficile à décrire, mais qui a des sortes de franges qui se déplacent, enfin qui bougent comme s'il y avait du vent quand elle détecte qu'il y a trop de CO2. Donc c'est un objet qui est à la fois beau et qui a un aspect utile. La deuxième start-up, c'est un t-shirt qui prend beaucoup d'informations sur vous pendant que vous courez et qui vous permet après d'avoir des statistiques sur comment s'est passée votre séance de course à pied.
Ouais, je pense que ça existe. C'est obligé.
Sachant que, par exemple, pendant la Coupe du Monde de rugby, les rugbymen, ils avaient un truc dans leur t-shirt pour capter leur performance sportive. Je pense que ça a pu très facilement être intégré direct dans le t-shirt.
Ouais, en effet, ça existe bel et bien. C'est une start-up des Rhône-Alpes qui s'appelle Citizen et qui a proposé ce design. Donc, en effet, ça existe déjà tout ce qui est montres connectées qui permettent de prendre des informations, ce genre de choses. Mais là, c'est un t-shirt, donc ça a d'autres avantages. Et c'est plus facile à porter potentiellement. Et du coup, ça capte votre pouls, votre taux de sudation, la distance parcourue, ce genre de choses, afin d'avoir pas mal de statistiques sur vos séances.
Et je suis curieux de savoir combien ça coûte, parce que franchement, ça va coûter bonbon.
Alors pour le coup, c'est un prototype, donc j'ai pas le prix de commercialisation. Mais oui, en effet, ça peut peut-être coûter cher. Après, si c'est amené à se démocratiser, le prix peut baisser, évidemment. La prochaine start-up, c'est une start-up américaine qui a proposé un prototype de frigo dans lequel ils mettent des capteurs qui captent différentes statistiques sur les choses que vous mettez dans ce frigo et qui va vous informer si un de vos produits est périmé.
Oh, c'est sûr que ça existe. Les Américains, ils sont très, très inventeurs.
Je dirais peut-être que non, moi, perso. Enfin, je me dis que c'est peut-être un Oscar, dans le sens que, pourquoi faire ? On a quand même des yeux pour regarder la date de péremption sur nos... Et comment le frigo, il pourrait avoir cette information, en plus ?
Mais en fait, je crois que j'en ai entendu parler, ou ça se trouve, c'est totalement faux, mais il me semble qu'il y a une histoire avec les codes-barres où ils captent... Enfin, en gros, il y a un truc qui permet de scanner les éléments et qui permet de dire... Et je crois même que, si je ne me trompe pas, ça se trouve, on parle d'une autre invention, mais il est capable de dire, en fonction des aliments qui restent, les recettes qu'on peut faire. Je me trompe ou...
C'est pas de ça que je parlais. Après, peut-être que ça existe. Okay. Mais pour le coup, c'est quelque chose auquel j'ai pensé et que j'ai pas trouvé sur le marché.
Bon, je vous le dis.
Par contre, en effet, je sais que. Alors, pour ce qui est de faire des recettes, ça existe avec l'IA de citer ses ingrédients et de dire. Enfin, que ça nous dise des recettes potentielles. Et pour ce qui est des codes barres, oui, en effet, enfin, j'ai pas trouvé, mais je pense que ça doit pas être très difficile à faire. Mais moi, je pensais plutôt à quelque chose qui va au-delà de juste la date de péremption, parce que souvent, les produits périment un peu plus tard et qui permettraient de détecter clairement si c'est périmé ou non. Mais pour le coup, ça n'existe pas. Après, je crois qu'il y a des moyens sur certains aliments d'avoir cette information sans le regarder soi-même. Mais à l'échelle d'un frigo, ça n'existe pas du tout pour le coup. La troisième start-up, on sort un peu de la tech, mais c'est assez intéressant aussi. C'est une start-up aux États-Unis et qui a aussi des antennes au Canada qui loue des poules aux clients afin qu'ils puissent avoir des poules dans leur jardin et les rendre après les avoir louées et avoir des œufs pendant cette période.
Okay. Je crois que tu nous as eu avec l'antenne au Canada. Je pense que en vrai, t'es capable d'inventer ce genre de truc. Je sais pas. Vous en pensez quoi ?
L'idée, c'est de louer une poule, d'avoir des œufs. C'est même pas sûr qu'elle donne des œufs. Et ça coûte plus cher, j'imagine, si c'est full louer une poule, la nourrir. Et...
Alors, si je peux compléter, si ça existe, je pense qu'ils louent des poules qui pondent des œufs, sinon c'est vrai que l'intérêt est assez réduit.
Bah, en vrai, je trouve ça assez drôle comme concept, mais je pense pas que ça existe.
Moi, je me dis, supposons que ça existe, c'est sûr, ça a flop, ça coûte vraiment plus cher de louer une poule que d'en acheter une, quoi.
Alors pour le coup, ça existe bel et bien, ça s'appelle Rent the Chicken, c'est une start-up américaine du coup en effet, qui fonctionne aussi dans certaines parties du Canada. Et donc en gros, ils mettent en relation et ils gèrent tout le transport de fermes qui élèvent du coup des poules pour les consommateurs qui puissent avoir des poules chez eux. Alors j'ai regardé, ça coûte entre 400 et 1500 dollars en fonction du nombre de poules que vous prenez par an. Sauf qu'on a le poulailler, la nourriture, etc. inclus. Le transport, il n'est pas toujours inclus, ça dépend des zones. Mais c'est vrai que ça fait quand même une belle somme. Je ne sais pas si c'est rentable au niveau des œufs. Et après, l'idée, si l'idée d'avoir des poules vous plaît, vous pouvez garder les poules, enfin les acheter, du coup, forcément, ce n'est pas gratuit. Et voilà, ils disent que pour deux poules, on est entre 6 et 8 œufs par semaine. Et après, il y a la formule à 4 poules avec entre 12 et 16 œufs par semaine.
Donc voilà.
Si vous aimez vraiment beaucoup les œufs, bah pour 1 500 $, vous aurez plein d'œufs.
Waouh. Bah merci pour ce jeu, Oscar.
C'est pas fini. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Alors, j'ai une autre start-up qui a. Principalement pour le bâtiment, même si ça pourrait avoir d'autres utilités, qui propose une règle numérique où en gros la règle s'adapte en fonction des unités, donc qui a aussi d'autres capteurs, mais en tout cas principalement sous forme de règle, et on peut avoir les pouces, les centimètres, etc. sur la même règle avec un écran qui change pour modifier l'unité.
Attends, j'ai pas compris. En gros, c'est une règle connectée.
Ouais, c'est ça, avec les unités qui changent et d'autres capteurs. Par exemple, tu as un niveau à bulle, tu as ce genre de choses, un capteur de température, et ça s'affiche sur un écran en fonction des informations dont
tu
as besoin.
Je sais que sur Apple, déjà, sur les iPhones, tu peux déjà mesurer les choses, mais je sais pas si...
Ouais, en effet, ça existe sur iPhone, mais c'est avec de la réalité augmentée. Donc ouais. Quand on veut être précis, ça peut avoir tendance à avoir des erreurs, même si ça fonctionne de mieux en mieux. C'est vrai, j'y ai pensé aussi quand j'ai vu ça. Mais pour le coup, c'est pas de ça que je parlais.
Et donc c'est quand même un objet, on a la règle en objet et ça nous transmet toutes les informations.
C'est ça, ouais.
Bah ça peut exister, je pense.
Ben écoutez, moi j'en ai pas trouvé, mais si quelqu'un qui nous écoute veut gagner de l'argent, peut-être essayer. Mais c'était l'idée de pouvoir avoir toutes les unités de mesure avec soi. Alors pour le coup, c'est vrai que ça serait peut-être pas si difficile que ça à mettre en place. Seulement, le problème, c'est potentiellement le fait que ce serait fragile. Donc quand on veut faire des travaux et qu'on a un objet fragile, c'est peut-être pas forcément le plus pratique. Je sais pas s'il nous reste un peu de temps, j'en ai une dernière.
Si, vas-y.
Ok. Alors, ma dernière start-up, du coup la précédente n'existait pas, hein. Je sais plus si je l'ai dit, mais... La dernière start-up, c'est une start-up française cette fois, qui a proposé un appareil qu'on branche sur des anciennes chaînes IFI, des anciens appareils audio, qui permet de l'adapter au nouveau système d'écoute de musique, le streaming, etc., pour permettre à ces appareils d'avoir une bonne qualité, même avec les nouvelles technologies. Souleyman, t'as une idée ?
Peut-être, je sais pas, ça peut exister, je dirais. Après, on peut jouer à des jeux de PS2 avec un PS4, je crois, avec un adaptateur. Mais...
Ouais, c'est vrai que c'est un peu le même style d'idée. Mais ouais, pour le coup, ça existe vraiment. Ça s'appelle Octavio, c'est une start-up lilloise. Okay. Et donc, ouais, l'idée, c'est deux Lillois qui avaient des vieux appareils audio, mais qui fonctionnaient très bien, donc par exemple pour les vinyles, etc. Et ils se sont dit, bah, c'est quand même bête que je puisse pas écouter ma musique sur Spotify, parce que c'est de moins bonne qualité tout de suite. Et ben, du coup, ils ont créé cet objet. Voilà, c'est bon pour ma chronique.
Merci, merci beaucoup. En tout cas, t'as eu de super idées, parce que c'était toujours galère de savoir si ça existait ou pas. Bon, on peut se féliciter quand même d'avoir eu des bonnes réponses. On va maintenant faire une pause musicale concoctée par Mehdi.
C'est pas vraiment moi qui a fait, hein. Mais je vais vous laisser avec la vision futuriste, avec l'hyper-reality. C'est un mouvement qui a pour but d'imaginer quelle sera la musique du futur, avec un featuring entre A.G. Cook et Cécile Believe, Show Me What.
La prochaine chronique effleura un gros débat de société, aujourd'hui, que sont les intelligences artificielles. Elle peut être vue de différentes façons, ça a fait couler beaucoup d'encre. Soit ça fait peur, pour d'autres c'est une avancée géniale, et pour d'autres c'est un peu des deux. Et c'est au tour d'Anna de nous en apprendre un peu plus sur le sujet.
Du coup, aujourd'hui, je vais relier les intelligences artificielles aux dystopies. Donc je souhaiterais vous emmener dans un voyage à travers le temps pour explorer les dystopies du passé qui ont évoqué l'intelligence artificielle bien avant que cette technologie ne devienne une réalité. Du coup, ces histoires fascinantes ont anticipé le rôle potentiellement inquiétant que l'IA pourrait jouer dans notre monde actuel. L'une des premières œuvres de fiction qui a abordé le thème de l'intelligence artificielle, c'est Metropolis, un film muet réalisé en 1927. Ce film y dépeint un avenir dystopique où une machine humanoïde nommée Maria est créée pour asservir les travailleurs. Metropolis offre un aperçu inquiétant plutôt de la manière dont une technologie avancée peut être utilisée pour contrôler et opprimer les masses bien avant l'ère de l'IA du coup. Un autre exemple notable, c'est celui de 1984 de George Orwell, publié en 1949. Bien que le roman n'y traite pas explicitement de l'intelligence artificielle, il présente un régime totalitaire dirigé par Big Brother qui utilise la surveillance omniprésente pour contrôler les pensées et les actions des citoyens, créant ainsi un environnement d'oppression dans l'espace public. Cette surveillance constante, du coup, elle rappelle un peu les préoccupations actuelles concernant la collecte de données par les technologies d'intelligence artificielle. Ça peut nous faire penser évidemment au système qu'on voit actuellement en Chine, par exemple. Puis il y a l'œuvre de science-fiction iRobot d'Isaac Asimov, adaptée en film avec Will Smith, qui a été publiée pour la première fois en 1950. Et donc c'est un autre exemple précoce de réflexion sur l'intelligence artificielle. Asimov a d'ailleurs introduit les trois lois de la robotique dans ses histoires, qui définissaient les règles éthiques pour les robots intelligents. Alors ces trois lois du coup, c'est un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain. La deuxième, c'est un robot doit obéir aux humains sauf si ça rentre en conflit avec la première loi. Et la dernière, c'est un robot doit protéger son existence, sauf si ça entre en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ces lois, elles sont devenues dans un cadre de réflexion important dans les domaines de l'intelligence artificielle, guidant toutes les discussions sur la sécurité, l'éthique des machines intelligentes. Mais on peut aussi citer un exemple un peu plus récent, comme la série Black Mirror sur Netflix. Cette série britannique, elle explore régulièrement les conséquences sombres de la technologie, y compris celle de l'intelligence artificielle. Des épisodes comme White Christmas ou Nocedive présentent des scénarios dystopiques dans lesquels l'intelligence artificielle joue un rôle central, que ce soit dans la surveillance, la manipulation des individus ou la création de sociétés ultra connectées. Pour l'épisode Nocedive, que vous avez sûrement tous vu, je pense, c'est celui le plus connu où on voit des individus qui sont notés par rapport aux autres sur une échelle de 1 à 5 pour chaque interaction sociale qu'ils ont dans la journée. Cette notation sociale, elle a un impact sur la vie des gens. Elle peut notamment déterminer leur statut social, leur opportunité professionnelle et leur accès à certains services. L'épisode remonte comment l'intelligence artificielle est utilisée pour collecter des données et attribuer des notes sociales, ce qui pose des questions bien évidemment sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la vie quotidienne, ainsi que sur la confidentialité, la surveillance et la manipulation des individus. Ces dystopies passées ont capturé l'imagination du public en anticipant des dilemmes éthiques et les dangers potentiels liés à l'intelligence artificielle. Elles ont préfiguré des questions qui sont aujourd'hui au cœur des débats sur l'IA, telles que la surveillance, le contrôle, la sécurité, etc. Non seulement dans notre espace public, mais aussi dans nos vies quotidiennes. Il est important de se rappeler que ces dystopies aient pu sembler futuristes à leur époque, mais aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu très, très actuel et très important à prendre en compte. L'histoire de la science-fiction, elle a joué du coup un rôle crucial. Elle nous a aidé à envisager les différents futurs possibles, à anticiper les risques et à façonner notre réflexion sur la manière de gérer cette technologie émergente. En conclusion, les dystopies du passé ont été des précurseurs importants dans notre compréhension de l'intelligence artificielle et de ses implications. Elles nous rappellent l'importance de la prudence, de l'éthique et de la réglementation dans le développement de cette technologie, non seulement dans nos vies personnelles, mais aussi dans l'espace public. On peut donc se dire que l'avenir de l'IA dépend en grande partie de notre capacité à tirer des leçons de ces récits dystopiques pour éviter les sombres réalités qui ont été imaginées.
Merci beaucoup Anna. C'est vrai que c'est assez génial ce qu'on peut déjà faire avec ce genre d'outils. Mais à cause des films de science-fiction, on a l'impression que l'avenir avec les robots dotés d'intelligence artificielle, ça finit toujours mal. En parlant de films, je vais pour ma part m'occuper de vous en présenter un qui montre bien l'absurdité du système dans lequel on vit. Je vais vous parler donc du film de Ken Loach, I, Daniel Blake, palmé au Festival de Cannes en 2016, mettant en scène la classe ouvrière et populaire de Newcastle, ville se situant dans la région la plus pauvre du pays. Après une attaque cardiaque, le héros, Daniel Blake, est considéré par ses médecins comme inapte à travailler. Mais en Angleterre, la distribution des aides sociales est contrôlée par une société à demi privatisée, rendue folle et perverse par sa chasse aux prétendus assistés. Ce qui va transformer le cas de Daniel en un cauchemar. En effet, l'administration le considère capable de travailler, alors que ses médecins le considèrent inapte. Dans toutes ces épreuves, Daniel rencontre Cathy, une jeune mère sans emploi, obligée de quitter Londres, sa famille et ses repères, pour obtenir un logement social et ne pas perdre la garde de ses enfants. Une femme qui est à tout près de littéralement crever de faim. Daniel et Cathy vont alors se soutenir dans leurs différents combats. En fait, ce film, il souligne la difficulté de sortir de la grande précarité dans une société qui avantage les riches et désavantage les pauvres. Il y a une scène qui m'a marqué dans ce film et qui a ressurgi dans ma tête lorsqu'on a commencé à évoquer le sujet d'aujourd'hui, sommes-nous esclaves des technologies ? Au début du film, Daniel Blake, il est déjà marginalisé par son habileté avec les outils informatiques. Et du coup, il se rend à la Société des aides sociales afin d'obtenir le matériel et l'aide nécessaire pour remplir un questionnaire sur Internet qui déterminera s'il a le droit ou non aux allocations. Alors même qu'une employée assistait Daniel à remplir le questionnaire, un supérieur interpella la femme en lui demandant ce qu'elle était en train de faire et qu'elle devrait plutôt se remettre au travail. Puis, une fois que Daniel est arrivé non sans peine à terminer le questionnaire, le site le déclare pas assez handicapé pour toucher aux allocations. Pour l'ordinateur, si Daniel Belg a ses deux bras et ses deux jambes, c'est qu'il est valide, c'est qu'il est apte, c'est qu'il doit travailler. Il se voit alors bloqué dans un cercle vicieux. Il doit rechercher du travail activement pour pouvoir quand même toucher une pension de chômage, mais qu'il n'aura évidemment pas le choix de refuser à cause de ses problèmes de santé. Cette scène, elle dépeint l'aliénation du système dans lequel on ne considère plus une personne pour ce qu'elle est, dans lequel la relation humaine est devenue une perte de temps et de rentabilité, dans lequel des intelligences artificielles, inflexibles aux différentes histoires, circonstances, situations, décident de la vie de milliers de personnes. Après cette recommandation film, nous allons laisser place à la dernière chronique. Ah, on me dit d'informer qu'on est toujours sur la radio Graphite 94.9. Donc on va laisser place maintenant à la dernière chronique, une chronique qui peut laisser de l'espoir face à un avenir dystopique ou dans un avenir où les technologies n'existeront peut-être plus à cause de l'épuisement de nos ressources. En effet, Margot va nous plonger au cœur d'une communauté et de société qui vivent en absence totale de technologie.
Donc, comme on a pu s'en rendre compte au travers des diverses chroniques qui ont été présentées, notre société actuelle est une société qui est hyper connectée. Nous utilisons tous, chaque jour, ce que nous appelons donc les nouvelles technologies, que ce soit au travail, à l'école ou même dans nos maisons. Celle que nous utilisons le plus se trouve probablement dans votre main, à l'instant où je parle, ou alors elle est soigneusement rangée dans votre sac ou votre poche. Je veux bien entendu parler du téléphone portable. Cet objet bien pratique nous permet de communiquer avec notre famille, nos amis ou même avec des personnes qui vivent dans un autre pays. Elle nous permet également de nous divertir en jouant à des jeux par exemple. Et à l'heure actuelle des réseaux sociaux, nous pouvons passer plusieurs heures par jour à scroller sur nos téléphones. Néanmoins, aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui ressentent le besoin de se déconnecter des nouvelles technologies et plus particulièrement des réseaux sociaux afin de préserver leur bien-être. Pour beaucoup d'entre nous, les choses sont allées très vite, voire même trop vite. Et certaines personnes se sont laissées submerger par les nouvelles technologies au point de développer une véritable addiction. Beaucoup de Français l'admettent, une journée sans leur téléphone portable est un véritable enfer. Ils ne peuvent pas s'en passer. Et je dois bien l'avouer, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Ainsi, de plus en plus d'utilisateurs essayent de se raisonner et de mettre en place des méthodes. Certains vont éteindre leur téléphone après une certaine heure, d'autres vont limiter le temps d'écran. Ou alors désactiver les notifications, la sonnerie, voire même carrément le vibreur. Mais il y en a quand même d'autres qui ont toujours des difficultés à se prendre en main, et c'est sans doute donc pour ces raisons que l'on voit fleurir un peu partout des centres de détox numérique. Le principe est simple, les participants laissent toute leur technologie dans un coffre-fort et n'y touchent pas pendant plusieurs jours. La plupart des temps, ces stages se font en pleine nature, pour redécouvrir le monde qui nous entoure, mais aussi pour permettre à ces personnes de finalement en fait, se reconnecter avec eux-mêmes. Ces cures sont très en vogue aux États-Unis, mais commencent à connaître un certain succès un peu partout dans le monde et en France notamment. Je vais maintenant vous présenter donc brièvement un exemple concret d'une personne qui a décidé de vivre sans technologie. Il s'agit de l'écrivain irlandais Mark Boyle qui a décidé de vivre sans téléphone, sans ordinateur, sans électroménager, sans voiture et même sans lumière électrique. Et tout cela pendant 4 ans. Il a quitté l'Angleterre, où il était gérant d'un magasin alimentaire bio, pour revenir en Irlande, où il a fait l'acquisition d'un terrain d'un hectare pour y construire une cabane, dans laquelle il va habiter pendant toute cette période. Tous les objets dont il se sert ont été fabriqués soit par lui, soit par une de ses connaissances. Il chasse et il pêche pour se nourrir, et il cultive aussi lui-même ses fruits et légumes. Pour se développer, pas de voiture évidemment. Il utilise le vélo ou alors tout simplement la marche à pied. Comme quoi, donc, c'est possible de vivre sans aucune technologie, même si je dois l'avouer, cet exemple est un peu extrême. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le sujet, Mark Boyle a écrit un livre intitulé « L'année sauvage » dans lequel il raconte son expérience. Nous allons maintenant passer à une échelle un peu plus large et parler justement de communautés entières qui ont fait le choix de se couper presque totalement des nouvelles technologies et de choisir donc quelle technologie sera ou non utilisée par ses membres. Pour illustrer ce point, je vais prendre l'exemple des Amish. Les Amish vivent aujourd'hui de la même manière qu'en 1850. Pourtant, ils comprennent parfois mieux les nouvelles technologies que la plupart d'entre nous. En effet, ils ont assimilé depuis longtemps que l'adoption d'une nouveauté peut avoir une influence profonde sur nous et sur notre collectivité.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les communautés Amish ne sont pas complètement fermées à la modernité. Elles se réunissent deux fois par an pour discuter des nouvelles technologies employées par leurs membres. Durant ces longues conversations, ils évaluent comment cela les affecte et si cela va à l'encontre de leur valeur suprême qui est la communauté. Pour être accepté au sein donc, d'une communauté, chaque nouveauté technologique doit être approuvée à la quasi-unanimité par les membres du groupe, ce qui peut rendre donc la chose un peu difficile. Ils peuvent toutefois décider de recourir à une technologie dans une situation précise et un cas donc qui est déterminé. Par exemple, les Amish s'opposent à la possession de voitures, car ils considèrent qu'elles tendent à éloigner les membres de la communauté. Mais ils n'ont aucun problème à monter à la bord de l'une d'entre elles en cas d'urgence, comme pour se rendre à l'hôpital. Néanmoins, il est important de préciser que ce modèle est difficilement reproductible à grande échelle dans la société moderne. Les valeurs varient beaucoup trop dans la population pour nous permettre de prendre des décisions de cette façon. De plus, certaines décisions sont également plus faciles à prendre au sein d'une collectivité restreinte qu'à l'échelle de la planète ou plus petite, donc à l'échelle d'un pays. Bien sûr, bon nombre de technologies aussi sont essentielles pour travailler. Par exemple, pour l'école, aujourd'hui, il est de plus en plus nécessaire pour les étudiants d'avoir accès à un ordinateur portable. Si nous devions toutefois retenir une chose des Amish, c'est qu'il serait bon de réfléchir davantage aux conséquences à long terme des technologies qu'on laisse entrer dans nos vies. Pour finir, si certains donc, ont décidé de se couper de la technologie partiellement ou totalement par choix, d'autres y sont contraints. En effet, si beaucoup de Français sont aujourd'hui déconnectés de toute technologie, ce n'est pas nécessairement par choix, puisque le problème, c'est qu'ils n'y ont tout simplement pas accès. Ils habitent dans ce que l'on appelle les zones blanches. Ce sont des régions qui ne sont pas couvertes par des réseaux d'opérateurs mobiles, car les investissements nécessaires pour leur fournir justement ces réseaux sont trop lourds pour les opérateurs, comparés à la densité de population. Aujourd'hui, en France, on compte 170 communes qui ne sont couvertes par aucun opérateur mobile. Ainsi, il est possible de vivre sans technologie, donc comme c'est déjà le cas pour certains d'entre nous, donc que ce soit par choix ou parce qu'ils ont été contraints, mais pour d'autres, ça reste quand même assez inenvisageable.
Merci beaucoup Margot, comme quoi il n'est pas impossible de se passer de nos objets connectés. Je vous laisse, si vous le souhaitez, tester l'expérience une semaine. Mehdi va maintenant essayer de nous faire passer un bon moment musical.
Yes, je vais vous parler... encore une fois, l'hyper-reality, hein, le mouvement qui a pour but d'imaginer la musique du futur, mais cette fois-ci, un morceau d'Era, nommé Hyper-Reality, un peu plus rock cette fois-ci, un peu plus métal. Right!
Avant de terminer cette émission, nous allons procéder à un petit débat entre nous. Je laisse Oscar introduire ce débat.
J'en profite juste pour remercier Mehdi avec ses excellents jingles, parce que ça met tout le temps l'ambiance avant les débats. Tous les propriétaires d'iPhone savent à quel point Face ID est une technologie pratique. C'est un moyen sûr et très efficace de s'authentifier sur toutes sortes de services en ligne. Seulement, ce type de reconnaissance faciale fait débat. L'exemple des caméras à reconnaissance faciale utilisées notamment pour la sécurité en manifestation, par exemple, ou encore de la reconnaissance faciale à crédit utilisée en Chine, comme vous en avez sûrement déjà entendu parler, sont des exemples très intéressants qui pourraient faire penser à de la dérive. Le débat reste ouvert. Et donc je vais vous inviter à débattre sur cette question. L'utilisation de la reconnaissance faciale par le gouvernement ou le privé est-elle contre-productive pardon, pour notre sécurité ?
Vrai gros débat. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ? Bah moi je trouve ça un peu abusé quand même de se faire toujours. On se fait toujours espionner quoi. Parce qu'il n'y a pas un moment où du coup il n'y aura pas de caméra dans les rues, où on ne verra pas nos visages. Et se dire aussi que en fait c'est facile d'utiliser ces données, que ce soit pour l'État ou quoi, je trouve ça un peu. Hein.
Et même, plus on a de données précises sur nous, plus on est vulnérable à n'importe quel événement dans nos vies, n'importe quelle petite infraction où on n'est pas préparé en fait, à faire face à des gouvernements ou des entreprises privées qui savent plus de choses sur nous-mêmes qu'on en sait. C'est-à-dire qu'ils ont une longueur d'avance sur nous, quoi.
Bah, je m'écarte peut-être un peu des caméras, mais c'est quelque chose qu'on sait tous, avec le système des cookies, et notamment des caméras, etc. Les entreprises, ou en tout cas les grosses firmes internationales comme les GAFAM, ont connaissance de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie, et même des fois, avant même qu'on en ressente le besoin, ils arrivent à anticiper ce qu'on a besoin sur le moment. Donc... les caméras, en plus de tout ce qu'on a sur nos smartphones, sur la géolocalisation et tout, permettent à ces entreprises-là d'avoir encore plus de conscience, de connaissances sur notre ressenti émotionnel à chaque instant, là, on rentre dans un réel danger sur le quid de la propriété personnelle intellectuelle.
Et même, ça pose des vraies questions éthiques, c'est-à-dire qu'ils vont se baser, pour nos recommandations, sur des critères totalement ils vont se baser sur notre couleur de peau, sur notre origine, machin. Peut-être des critères qui ne sont pas du tout à prendre en compte quand l'on imagine de la personnalisation de profil.
Et à mes yeux, c'est pas tellement un danger si ça reste. Ces problèmes-là éthiques ne représentent pas réellement un danger si ça reste à l'échelle. Enfin, bien évidemment que c'est un danger, mais il est moindre comparé à si c'est à l'échelle gouvernementale ou étatique, où on peut ficher chaque personne selon ses appartenances politiques, sa couleur de peau, ses idées, etc. Et là, c'est le réel danger.
Ouais, pour prendre un peu l'exemple que tu as cité par rapport à la Chine ou certains pays comme ça un peu totalitaires où il y a carrément des gens qui sont espionnés sur tout ce qu'ils font dans la rue et toute bonne action va leur rapporter des points et toute mauvaise action va leur en retirer et en fonction du nombre de points qu'ils ont, des fois en fait ils peuvent se retrouver emprisonnés ou quelque chose comme ça parce que y a un total de zéro sur leurs points. Par exemple, un exemple tout bête, traverser le passage piéton, ça vous rapporte 5 points alors que si vous passez à côté, peut-être que vous allez en perdre 30 ou un truc comme ça. Et des fois on fait pas forcément gaffe, ça arrive à tout le monde de pas traverser le passage piéton parce que il est super loin et on est pressé ou il y a un truc urgent de l'autre côté de la rue qui nous oblige en fait à traverser sans faire gaffe. Et là-bas en fait c'est une question un peu de vie ou de mort quoi, donc c'est vraiment horrible d'utiliser les technologies et les caméras de surveillance avec la reconnaissance faciale de cette façon.
Et derrière, il y a des grosses restrictions de droits, comme l'interdiction de quitter le territoire, d'accéder à certains services, à certains biens, en fonction justement de notre score. Un peu comme ce que disait Anna tout à l'heure sur l'épisode de Black Mirror, où ils ont été un peu, enfin, je ne sais pas lequel est venu avant l'autre, mais ils ont été un peu avant-gardistes, si sorti avant, quoi. Sur la question.
Alors moi, je vais peut-être vous lancer sur un autre débat qui rejoint un peu celui-ci, parce que notre émission, c'est « Sommes-nous esclaves de nos technologies ?» Et en fait, on voit qu'avec nos données, tout ce qui est récupéré de nos smartphones ou de tous nos appareils connectés, ça rapporte une masse d'argent colossale à toutes les grosses entreprises. Et est-ce que c'est pas justement ça l'esclavage du 21e siècle ? C'est que nous, on est longtemps sur nos téléphones, sans s'en rendre compte, et pourtant nous, en dépensant rien et en travaillant pour eux, on leur donne de l'argent. Est-ce que c'est pas ça être esclave un peu de nos données et de nos technologies?
Moi, je trouve que le mot d'esclavage, il est peut-être un peu fort, mais par contre, en effet, c'est clair que passer du temps sur les réseaux sociaux ou quelconque exemple que tu pourrais donner, c'est donner de l'argent à des grosses entreprises avec finalement... c'est comme quand on dit si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Hein. Toutes les publicités qu'on regarde, etc., ça fait gagner de l'argent aux autres. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose aussi. Mais par contre, en effet, ça se déplace un peu du sujet des caméras. C'est-à-dire que, comme disait Mehdi tout à l'heure avec les cookies, etc., est-ce que finalement les entreprises privées n'ont pas déjà tellement d'informations sur nous que le sujet de la reconnaissance faciale est presque anecdotique, je veux dire, en termes de publicité et d'information sur le consommateur à ce niveau-là. Est-ce que c'est pas plutôt d'autres sujets qu'on aurait besoin d'attaquer si on veut se poser la question de ce problème ?
Ouais, c'est vrai. En tout cas, c'est hyper intéressant. Et merci à tous pour avoir participé au débat et à la mission. Donc l'émission se termine, je souhaite une bonne journée à tout le monde et nous pouvons nous quitter comme nous avions commencé avec la première chronique en nous applaudissant. Watching that.